France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des initiatives, en somme. Le département de la Somme, dans les Hauts-de-France, est à l'honneur toute la semaine. Le jeu des 1000 euros s'est en effet installé à Péronne. Et dans les carnets de campagne, nous sommes aujourd'hui à Amiens, puis à Bugny-l'Abbé, près d'Abbeville. À Amiens, avec un archéologue qui donne un coup de main à la recherche contre le cancer. Oui, ce sont deux univers a priori très éloignés, mais qui sont en fait reliés par l'intelligence artificielle. Vous allez comprendre. Ensuite, on parlera du pouvoir des fleurs dans les assiettes. Cosmos, capucine ou bourrache, je passe un coup de fil à une productrice de fleurs comestibles. Elle vient tout juste de se lancer, elle attend sa première récolte. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
L'intelligence artificielle au service de l'archéologie. Je donne la parole à un céramologue, autrement dit un archéologue spécialiste de l'étude des céramiques sur les sites de fouilles. Bonjour Cyril Chédron.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes basé à Amiens, céramologue depuis 25 ans, et vous avez créé une entreprise baptisée Archéocéra qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Donc vous allez nous expliquer. Dites-moi plus d'abord sur votre métier, s'il vous plaît. Que nous apprennent les céramiques? Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de les étudier de très près?
Alors les céramiques nous apportent énormément d'informations sur la vie dans les temps passés. Alors il faut savoir que la céramique a été inventée il y a plusieurs milliers d'années. Et cet outil, qui est au départ un contenant, va nous apporter des informations sur la datation, combien de temps les gens vont vivre sur un site archéologique. Est-ce que ce sont des gens riches? Est-ce que ce sont des gens pauvres? Est-ce que ce sont, par exemple, des militaires romains? Est-ce que ce sont des populations civiles? Donc, on va avoir des informations aussi sur le commerce à longue distance avec les amphores, mais aussi à courte distance avec des ateliers de potiers qu'on peut avoir, notamment à côté de chez moi, autour d'Amiens, il y en a toute une série. Donc, ça nous apporte, en fait, des informations sur la petite histoire, donc l'histoire au quotidien des gens il y a plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années.
On sait ce qu'on mangeait à l'époque en étudiant une céramique.
Exactement, tout à fait, vous avez tout à fait raison, parce que certains vases sont spécifiques à certains types de cuissons, à certains types d'aliments, comme les plats à poissons, par exemple, qui ont des formes particulières.
Alors, vous travaillez en archéologie préventive, Cyril Chédron, autrement dit sur les fouilles qui sont réalisées avant des travaux, notamment, et ça fait un moment déjà que vous travaillez avec l'intelligence artificielle.
Oui, ça fait presque 10 ans maintenant que j'utilise des outils d'intelligence artificielle. Alors, au départ, c'était plutôt sur des projets pour identifier des sites archéologiques sur des photographies satellites. Vous avez peut-être déjà tous utilisé Google Maps avec les images satellites et vous voyez qu'on peut voir parfois des traces. Et bien, j'utilisais les IA au départ pour un projet de recherche qui permettait sur des images satellites de repérer des sites archéologiques invisibles. Et petit à petit, cet outil, je l'ai intégré plus facilement dans mon quotidien, notamment dans mon activité de céramologue.
L'outil que vous avez développé s'appelle Ostrakia. Comment ça marche concrètement? À quoi ça sert?
Alors Ostrakia, c'est un outil qui sera bientôt mis en ligne pour les chercheurs en archéologie, qui va permettre, avec une simple photo, de compter automatiquement des objets, alors notamment des fragments de poterie, parce qu'on ne se refait pas quand on est céramologue, mais ces comptages vont être intégrés automatiquement à des bases de données qui vont permettre de faire gagner du temps à mes collègues archéologues, parce que c'est ça qui est précieux pour l'archéologue, c'est le temps. Et si on peut en gagner, c'est encore mieux, notamment pour faire des recherches.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple un peu concret pour qu'on visualise comment fonctionne cet outil?
Alors, vous prenez une photo, vous mettez, alors tout d'abord, les archéologues mettent les fragments sur une table, prennent une photo, et avec une intelligence artificielle, on va venir compter automatiquement tous ces fragments qui vont être ensuite intégrés à des fichiers de bases de données. Et voilà, c'est un gain de temps qui est énorme parce que quand on a des milliers de fragments à compter, c'est mon cas, en tant que céramologue, j'ai parfois des centaines de caisses, des caisses avec des milliers, des dizaines de milliers de tessons, et donc compter parfois jusque 10 000, ça prend du temps. Et bien là, l'avantage, c'est de gagner ce temps avec l'intelligence artificielle, et le temps gagné va me permettre de refaire des recherches bibliographiques plus approfondies, par exemple, et de prendre plus de temps pour l'analyse des données.
Voilà, l'intelligence artificielle ne vous remplace pas, vous, l'archéologue, hein ?
Ah, ça ne remplacera jamais l'archéologue, jamais le céramologue, par un principe très, très simple, c'est déjà que les IA n'ont pas de main. Alors ça paraît bête, mais c'est quand même un élément important, je vous assure, quand on est céramologue, et ben, le tesson, le fragment de poterie, il faut le toucher. faut le regarder, faut le bouger dans différents angles pour voir des éléments brillants, pour savoir est-ce que c'est un fragment de poterie qui vient d'Italie, qui vient d'Espagne. Et ben ça, une IA sera incapable de le faire parce que elle n'aura pas le toucher, parce que toucher une poterie, ça donne aussi des informations sur son origine. Mmh.
Que répondez-vous, Cyril Chédron, à ceux et celles, et on sait qu'ils sont nombreux, qui ont peur de l'intelligence artificielle ?
En fait, il faut savoir que ça reste un outil. Et comme tous les outils, ça va amener énormément d'avantages pour nous au quotidien. Mais l'histoire est faite de ces peurs avec les arrivées technologiques. Je vous invite à reprendre les articles dans les journaux français et anglais à la fin du 19e siècle, quand les voitures, les premières automobiles sont arrivées. Il y a eu beaucoup de peur. Même le train, par exemple, les premières locomotives, on pensait que ça rendait fou les gens parce qu'au-delà de 30 km/h, on pensait que le cerveau n'était pas capable d'accueillir cette vitesse. Donc ces peurs sont normales. Maintenant, c'est aux spécialistes et aux entreprises d'IA d'amener ces IA au quotidien, et malheureusement, il y aura un mauvais usage de ces IA. Mais c'est pas la technologie en elle-même qui est mauvaise, ça va être l'usage qu'on va en faire. Et donc c'est une réflexion commune, sociétale, qu'on doit avoir autour de ce sujet.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Alors en ce moment, j'étudie un site formidable de mes collègues de l'INRAP, à côté d'Arras. Donc un site qui est daté globalement de l'arrivée des troupes de Jules César. On est à l'époque de ces légionnaires et ces auxiliaires qui venaient dans le nord de la France et qui ont créé les premières villes, comme la ville d'Amiens ou la ville d'Arras.
L'INRAP, je le précise, c'est l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Est-ce qu'il y a une pièce sur ce chantier, une pièce en particulier dont vous avez du mal à percer les secrets ?
Ah oui, il y en a plusieurs, hein, parce que on peut pas tout savoir. Il y a énormément de poteries, mais il y a des amphores qui sont assez originales. Alors j'active mon réseau de spécialistes en amphores. On appelle des amphorologues. Il y a des spécialistes de tout en archéologie, et donc ces spécialistes, notamment des amis qui sont en Espagne, m'aident à identifier certaines amphores qu'on n'a jamais retrouvées dans le nord de la France. Donc voilà, il y a quelques originalités qui viennent accompagner sur ce site des militaires. Alors on ne sait pas si ce sont des militaires des troupes de César ou d'Auguste, ou des militaires gaulois qui sont entrés dans les armées romaines ensuite. Bon, voilà, il y a encore beaucoup de questions, mais on est au milieu de l'étude, donc il y a encore beaucoup de surprises qui m'attendent, je pense.
Cyril Chédron, vous avez aussi développé une technologie qui est utilisée dans le domaine de la santé. Pourtant, ce n'est pas du tout votre branche.
Absolument. Alors, pas du tout. Le seul point commun, c'est que je suis hypochondriaque comme beaucoup de vos auditeurs, et donc l'intelligence artificielle essaie de me rassurer. Donc oui, effectivement, on a développé au sein d'autres sociétés que j'ai créées des outils d'intelligence artificielle qui nous permettent d'identifier en temps réel, de caractériser en temps réel des pathologies comme le cancer, mais aussi la maladie de Crohn. Et ce même outil, alors au départ, c'est un outil qui me servait pour l'archéologie et qui maintenant est utilisé pour identifier des mines qui sont enfouis dans le sol et qui sont invisibles. Donc on passe de l'archéologie à la détection des mines, et de la détection des mines aux maladies, avec comme fil rouge, en fait, l'intelligence artificielle.
Je pense que vous ne vous doutiez pas, quand vous faisiez vos études en archéologie, qu'un jour, vous iriez travailler sur le terrain du cancer.
Alors, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui est formidable quand on travaille sur ces technologies-là, c'est que parfois, on vient tirer un fil. Et cette bobine de fil, on a l'impression qu'elle est au départ toute petite, et puis on tire, et puis on rencontre des gens extraordinaires, que ça soit dans le secteur de la défense, que ça soit dans le secteur médical, des médecins qui sont extraordinaires avec lesquels on travaille. Et effectivement, j'imaginais pas un instant pouvoir travailler sur ces champs aussi passionnants il y a maintenant plus de 25 ans, quand j'ai débuté l'archéologie. Je pense que l'intelligence artificielle va bouleverser le monde de l'archéologie et libérer du temps pour les chercheurs, pour aller plus loin dans leurs recherches et laisser à l'IA, cet outil, le travail qui n'a pas de valeur ajoutée.
Archéo Serra, entreprise basée à Amiens, dans la Somme. Merci beaucoup, Cyril Chédron.
Merci beaucoup, Dorothée.
Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Et nous voici à présent à Bugny-l'Abbé, entre Amiens et la baie de Somme, pour donner la parole à une productrice de fleurs qui travaille en pleine terre et sans intrants chimiques. On sait que les pesticides dans la culture des fleurs sont monnaie courante. La particularité de ces fleurs-là, c'est qu'elles se mangent. Bonjour Julie Dessin.
Oui, bonjour.
Le Jardin des Possibles, c'est le nom de votre petite exploitation de fleurs comestibles qui est très récente. Et c'est une reconversion professionnelle pour vous. Vous étiez ambulancière. Pourquoi ce changement ?
Alors, j'étais ambulancière pendant quasiment 10 ans. Et puis, j'avais un besoin de renouveau professionnel et aussi concilier vie professionnelle et vie personnelle. Vu l'arrivée de ma seconde fille. Donc, c'était plus vraiment un métier pour une maman de 2 enfants. qui est un métier assez prenant au niveau des horaires, etc. Et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer.
Et pourquoi les fleurs comestibles ?
Bah déjà, j'aime beaucoup les fleurs en général. Et voilà, c'est un marché qui est en pleine croissance. Dans les restaurants, etc., c'est énormément utilisé. La cuisine végétale, c'est de plus en plus tendance. Enfin voilà, quoi. Il y a quelque chose à faire là-dessus.
Alors, quelles fleurs cultivez-vous au Jardin des Possibles ? On fait un petit inventaire en les décrivant, s'il vous plaît.
Oui, bah alors bah, y aura de la bourrache, capucine, cosmos, tagette, bleuet. Après, ce sont les plus courantes, quoi. Et j'essaierai de faire autre chose dans un second temps. La sauge ananas, la gastache, voilà, quelques-unes.
En termes de couleurs, qu'est-ce que ça donnera ?
Oh bah... une multitude de couleurs, ce qui est super, quoi. Ça égaye, ça donne du baume au cœur, enfin voilà.
Alors on parle au futur, hein, parce que c'est votre toute première saison, les récoltes sont prévues pour le mois de mai, c'est ça ?
Alors là j'ai effectué mes premiers semis, ça pousse tout doucement, puis oui ça sera pas avant mai-juin, les premières fleurs.
Il y a une demande pour des fleurs locales et de saison dans ce secteur, notamment chez les restaurateurs ?
Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup de restaurants gastronomiques, etc. De la baie de Somme jusqu'à Amiens, il y a énormément de potentiel, quoi.
Est-ce qu'on vous dit parfois que c'est dommage de manger des fleurs tellement elles sont belles ?
Alors oui, des fois on me le dit, parce que bah, il faut les laisser aussi aux pollinisateurs, aux insectes, etc. Mais justement, plus je vais en produire, plus il y en aura dans le jardin et plus il y aura de tous ces insectes présents, quoi. Enfin, donc, elles sont visitées par pas mal d'insectes, oui, quand même.
Vous cherchez une parcelle plus grande pour l'année prochaine, je crois.
Ouais, plutôt pour l'année prochaine, oui. Parce que cette année, j'aimerais quand même focaliser sur la première production, donc pas trop m'éparpiller sur un entretien de parcelle trop grande, etc. quoi. Mais oui, oui, c'est en vue.
Et il y en a beaucoup des productions de fleurs comestibles dans la région ?
Alors non, pas du tout, non. Il y en a pas mal du côté du Nord-Pas-de-Calais, frontière belge, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que dans la Somme, c'est assez désert et j'en ai pas en tête là, de production. J'ai vraiment du potentiel à être dans le secteur et que voilà, très peu de concurrence.
Et en termes de goût, qu'est-ce que ça donne pour ceux et celles qui n'auraient jamais mangé une fleur ?
Alors oui, bah il y a pour tous les goûts. Hein, y a assez épicé, poivré, piquant. Après, il y en a qui sont neutres. Donc ça, c'est bien pour les plats, que ce soit salé ou sucré. On peut les utiliser pour ces deux types de plats. Ça peut être décoration d'assiettes, de gâteaux, on peut faire énormément de choses avec, même des infusions, voilà.
Voilà, le Jardin des Possibles, c'est à Bugny-l'Abbé dans la Somme. Merci beaucoup Julie.
Bah, merci à vous.
Et bonne première surtout.
Oui, on croise les doigts, merci.
Bonne journée, au revoir.
À vous aussi, au revoir.
C'était Carnet de campagne avec Gîtes de France. Gîtes de France, l'expert de l'hébergement chez l'habitant depuis 70 ans.
Et nous restons bien sûr dans la Somme. Il est 12h45, vous écoutez France Inter, voici le jeu des 1000 euros, Nicolas Stoufflet.
Chers amis, bonjour.
Bonjour.
Dans la Somme, Péronne, 7200 habitants, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Amiens. Péronne est connue notamment pour son historial de la Grande Guerre, un musée de la Première Guerre mondiale, bâtiment moderne qui jouxte l'ancien château fort. Péronne fut occupée par l'armée allemande dès le mois d'août 1914 et est devenue immédiatement un centre de grande activité militaire, plusieurs fois occupée, lieu de violents combats. Elle fut finalement libérée par les Australiens en septembre 1918. Et cet historial de la Grande Guerre présente la vie quotidienne pendant cette guerre à travers des témoignages de ceux qui l'ont vécu ou des familles qui l'ont vécu et à travers la présence de très nombreux objets ainsi que des expositions thématiques. À voir aussi à Péronne, outre cet historial, le musée Alfred Danicourt. Il se trouve dans le très bel hôtel de ville, ce musée Alfred Danicourt, et là, son thème, c'est plutôt la préhistoire et l'antiquité, mais aussi des expositions de beaux-arts, comme par exemple en ce moment, exposition sur les peintres péronnais jusqu'au 31 mai dans le musée Alfred Danicourt. On prend note pour le week-end prochain, les 29 et 30 mars, le Salon du Livre à Péronne, à l'espace Macorlan, juste à côté de l'historial. Et justement, nous sommes dans cet espace Macorlan pour le jeu cette semaine, à Péronne dans la Somme, en commençant avec Jean-Pierre Ferry et Guillaume Ancelet. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez Amiens, vous êtes venu pour nous rejoindre. Quelques mots sur vous Jean-Pierre pour vous présenter. Quel est votre métier d'abord ?
Alors, ben, je suis fonctionnaire au ministère du Travail.
Vos loisirs, vos occupations principales ?
Ben, la lecture, le cinéma, chiné aussi. J'aime beaucoup ça.
Vous aimez chiner et il y a une raiderie fin avril importante à Amiens. C'est, je crois que c'est la raiderie, comme on dit, hein, la plus importante après, évidemment, la grande braderie de Lille.
Tout à fait, oui.
Alors, qu'est-ce que vous cherchez, vous, quand vous faites ça, des foires aux puces, les raideries, les choses comme ça, les grandes braderies ?
Rien de particulier, parce que chercher quelque chose en particulier, c'est le meilleur moyen de rien trouver.
Ça, c'est pas
mal. Donc, on part un peu à l'aventure et puis il y a un objet qui vous appelle ou un livre.
Vous êtes plutôt du genre collectionneur ?
Collectionneur, oui. Entasseur même, parfois.
Empileur, entasseur. Collectionneur de collection.
Hein. Voilà.
Oui. En matière de cinéma, si on devait, je sais pas, choisir 5 films préférés
Un peu dans tous les genres. Je vais pas être forcément très original, mais il y aurait par exemple Le Parrain, Le Bon, la Brute et le Truand, L'Armée des Ombres. 5, ça devient compliqué.
Oui, c'est déjà pas mal.
C'est déjà bien.
Plutôt les grands classiques.
Oui.
Jean-Pierre d'Amiens avec Guillaume Ancelet de Rosières-en-Santerre. Bonjour Guillaume.
Bonjour Nicolas.
Rosières-en-Santerre, c'est une commune qui se trouve plutôt dans l'est du département, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ça a une trentaine de kilomètres d'ici.
Vous êtes professeur d'éducation physique et sportive dans un collège ?
Oui, au collège de Chaulnes, juste à côté.
Juste à côté. Alors, le sport, évidemment, ça vous occupe ?
Oui, tout à fait. Je joue au foot, par exemple, au club de Rosières. Voilà, et puis je fais aussi du vélo sur mon temps libre.
Oui, de quel côté allez-vous quand vous faites du vélo ? Vous avez
je reste dans l'est du Santerre. Voilà, il m'est déjà arrivé de traverser les Alpes ou des choses comme ça. Mais au quotidien, c'est plutôt les déplacements pour aller au boulot et puis après les sorties dans l'est de la Somme.
C'est de la route plutôt pour vous ?
Ouais, plutôt de la route, oui.
Et vous sortez parfois en club ? Enfin, je veux dire, il y a des...
Non, mais j'ai pas mal d'amis qui font du vélo également. Donc ça nous arrive de faire des sorties en groupe sans appartenir forcément à un club.
En toute saison ?
En toute saison, un peu moins l'hiver.
Je comprends.
Ça pique forcément. Et puis chez nous, certes, c'est le plat pays, comme on dit, mais il y a beaucoup de vent. Et voilà, c'est une contrainte pour quand on fait du vélo.
Il faut jouer avec les éléments.
C'est ça.
D'accord. Il faut l'avoir dans le dos, mais forcément, on ne peut pas toujours l'avoir dans le dos.
Il faut rentrer à la maison quand
même. Oui, surtout qu'on a faim. Jean-Pierre Ferry, Guillaume Ancelet réunis pour tenter de répondre, et je pense que ça va marcher, aux questions bleues, blanches, rouges, banco et super banco. Première question bleue, une question d'Anne-Marie Picherie à Nantes. Comment nomme-t-on aussi le thon blanc, le poisson ?
Pas d'idée particulière.
L'albacore ?
Ce n'est pas l'albacore, le thon blanc.
Je vois pas trop.
Pas de proposition, c'est un nom que vous connaissez.
La bonite ?
Non plus.
Non.
Je vais tenter l'espadon.
Ce n'est pas l'espadon. Le thon blanc, quel est son autre nom ? On l'appelle d'un autre nom en effet, ou thon avec ce nom par la suite. Question qui sera reposée dans quelques minutes. Nous nous concentrons maintenant sur cette autre question bleue de Jean-Marie Baudin à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Ce concours d'athlétisme masculin comporte 5 exercices, 5 disciplines. De quelle compétition s'agit-il ? Ce concours d'athlétisme masculin comporte 5 disciplines. De quelle compétition s'agit-il ? 5 disciplines.
Du pentathlon ?
Du pentathlon, oui, c'est la bonne réponse, exact. Vous êtes sportif. Et le mot vient du grec penta, qui signifie 5, athlon, compétition, 5 disciplines. Dans la version moderne, au passage, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les disciplines ? Je vous pose une colle, peut-être, excusez-moi Guillaume.
Non, mais il y a du cheval.
Alors, il y a de l'équitation.
Voilà, il y a du tir à l'arc.
De l'escrime, de la natation et de la course.
Escrime, natation, équitation, tir au pistolet précisément et course à pied. Pas tir à l'arc, mais tir au pistolet. Autre question bleue, la troisième d'aujourd'hui, de la part de Martine Salou à Entrelac en Savoie. Question envoyée sur franceinter.fr. Quel mot synonyme de découvreur est utilisé pour désigner une personne qui trouve un trésor, un objet, etc. Il y a un mot qu'on emploie dans ces cas-là. On ne dit pas que c'est un découvreur.
Inventeur ?
un inventeur. Bonne réponse, Jean-Pierre. L'inventeur d'un trésor. À présent, les questions blanches. Voici celle de l'association Escale Nature à Concarneau, dans le Finistère. Qu'est-ce qu'un animal myrmécophage ? Animal myrmécophage. Que fait-il ?
Il mange des coquillages ?
Pas des coquillages. Mais ça concerne bien son alimentation. Que peut-il manger ?
Il mange des algues.
Pas des algues.
Des vers de terre.
Pas les vers de terre.
Des escargots.
Pas des escargots. Alors, c'est le cas de certains mammifères, de certains reptiles, de certains insectes. On les qualifie de myrmécophages. Que mangent-ils ? Qu'ont-ils ? Dans l'assiette, à l'heure du déjeuner, les animaux myrmécophages. Autre question blanche de Christophe Guizet à Besançon. Qui a gagné le Tour de France ? Ça tombe bien parce que ce sont des questions sport. Hein, voilà, vous avez tiré au sort pour certaines en tous les cas. Qui a gagné le Tour de France masculin de cyclisme entre 1999 et 2005 ? Vous aimez le sport tous les deux, Jean-Pierre et Guillaume ? Qui a gagné le Tour de France entre 1999 et 2005 ?
Lance Armstrong.
Et donc ?
Et donc, officiellement, il n'y a pas de vainqueur.
Voilà. Ben, vous êtes bien complété sur ce coup-là. Bonne réponse. Officiellement, pas de vainqueur, puisqu'on le sait, Lance Armstrong, pour cause de dopage, a vu ses victoires annulées. Donc, on considère qu'il n'y a pas eu de vainqueur pour le Tour de France masculin de cyclisme entre 1999 et 2005. Question rouge de Thierry L. à Paris 17e. Incroyable. Question sport encore. Donnez le surnom, s'il vous plaît, de l'équipe de football d'Afrique du Sud. C'est ce que vous demande Thierry. Le surnom des joueurs de l'équipe de football d'Afrique du Sud.
Les Bafana Bafana.
Les Bafana Bafana.
Bien vu, Jean-Pierre. Bravo. Cherche un animal.
J'ai donc aujourd'hui sur France Inter, au jeu des 1000 euros, deux questions à reposer. Vous savez que vous n'avez droit qu'à une réponse à présent en 15 secondes maximum. D'abord cette question bleue, d'Anne-Marie Picherie à Nantes. Comment nomme-t-on aussi le thon blanc ?
On a cherché oui. dans nos cerveaux respectifs, mais...
Vous n'avez rien pêché ?
On ne voit pas pour l'instant.
Non.
Vous ne voyez pas pour l'instant. Et évidemment, le temps est compté. Pas d'autres propositions, pas de propositions d'ailleurs du tout dans cette seconde partie du jeu, mais peut-être une réponse parmi le public présent ici à l'espace Macorlan. Pourquoi s'appelle-t-il Macorlan, cet espace de Péronne dans la Somme ? Bien parce que l'auteur-poète est né ici, dans cette ville de Péronne. Je vais tendre le micro à une dame. Est-ce qu'il y a une dame qui veut me proposer une réponse ? Voilà, comme on a deux candidats aujourd'hui, on va tendre le micro à une spectatrice. Bonjour madame, quel est votre prénom ?
Maryse.
Où habitez-vous Maryse ?
À Rhin-Cheval.
Rhin-Cheval, c'est dans la Somme aussi ?
Oui, tout à fait.
Quel est votre métier Maryse ?
Je suis retraitée.
Quel est votre centre d'intérêt principal ?
La lecture, le cinéma.
Classique donc. Quelle est votre réponse Maryse ?
Le thon Germont.
C'est le thon Germont Maryse, t-shirt France Inter, à votre convenance. C'est ça, le thon blanc, on l'appelle aussi Germont ou thon Germont. Une question bleue qui permet à Anne-Marie Picherie qui habite Nantes et qui nous a envoyé cette question par voie postale la plus classique, de gagner 15 euros. Je remonte sur scène, et oui, du chemin à faire dans cette grande salle, ce grand espace Macorlan. Je remonte sur scène pour retrouver Jean-Pierre et Guillaume à qui je pose la question blanche, je repose la question blanche. Je vous rappelle que c'est une question qui nous vient de Concarneau dans le Finistère. Elle a été envoyée par une association, l'association Escale Nature. Que mange un animal myrmécophage ?
On est un peu pareil que sur la question d'avant. Mais oui. Voilà, on a bien conscience qu'il faut trouver la racine de myrméco.
Oui, c'est aussi ça l'idée.
Genre
oui.
Myrmécologue, par exemple, celui qui étudierait. Voilà.
Oui, c'est ça.
Mange des œufs ?
Pas des œufs, l'animal myrmécophage. Allez, un nouveau tour dans la salle. pour peut-être recueillir une réponse et peut-être une bonne réponse à cette question sur l'animal myrmécophage. Que mange-t-il ? Je vais voir madame au fond de la salle. Bonjour madame.
Bonjour.
Où habitez-vous ?
À Amiens.
Quel est votre prénom ?
Nina.
Quelle est votre réponse, Nina ?
Les fourmis.
Un animal myrmécophage mange des fourmis. T-shirt France Inter également pour Nina. Et pour l'association Escale Nature à Concarneau, association que je remercie pour sa question, 30 euros car il s'agissait d'une question blanche. Nous faisons les totos avec notre duo de candidats aujourd'hui, Jean-Pierre Ferry et Guillaume Ancelet, 105 euros, mais aussi le quiz des 1000 euros en famille, c'est la boîte de jeu. Alors, je dois vous dire que vous avez beaucoup de chance de recevoir cette boîte de jeu parce qu'en librairie, comme on dit, elle est épuisée. Voilà, on a tout vendu, mais on vous l'offre cette semaine et pendant quelques semaines au jeu des 1000 euros. On l'offre à nos candidates et candidats. Le quiz des 1000 euros en famille, 1000 questions pour peut-être atteindre chez vous le super banco. Il y a d'une part des questions pour les adultes, d'autre part des questions pour les jeunes. Coédition France Inter Marabout. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.
Merci Nicolas Stoufflet. Je vous rappelle que des enregistrements en public du jeu des 1000 euros sont prévus le 1er avril à Mauriac, dans le Cantal. Le 2 avril, ça se passe à Entrailles-sur-Truyère, en Aveyron. Et le jeudi 3, à Lodève, dans l'Hérault. Et comme vous le savez, les carnets de campagne suivent à la trace le jeu des 1000 euros. Alors vous pouvez nous écrire pour signaler des initiatives réjouissantes ou des gens géniaux dans ces départements. Le Cantal, l'Aveyron et l'Hérault.